Vous écoutez Radio Aramigo. Run on for a long time. Run
on for a long time. Restez sur Arengo, vous allez suivre maintenant la chronique L'Actu Tiède de Luc Van Lerberg.
Bonjour à tous, nous sommes le 16 novembre, mardi 13h avec Luc Van Lerberg dans L'Actu Tiède. Bonjour Luc.
Bonjour Armel, bonjour à tous.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Bah, très bien, très très bien.
Bon, bah super. Alors aujourd'hui, le sujet de ta chronique, les métavers, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi as-tu choisi ce sujet, Luc?
Alors on va commencer par la question du pourquoi, toujours. Essentiellement parce que c'est une étape fondamentale dans la révolution numérique. Et si on croit aux quelques chiffres qui sont à notre disposition, eh bien je vous annonce une étape fondamentale qui risque fort de chambouler nos sociétés, nos identités, nos libertés, nos façons de penser, nos façons d'appréhender le monde, nos modes de vie. Est-ce que ça te suffit comme raison?
Ah, tout à fait, c'est déjà pas mal même.
Alors, avant d'entrer dans le cœur du sujet, je veux remettre justement ce sujet dans sa perspective première. J'ai annoncé une étape dans la révolution numérique. Ben, c'est ce point-là, la notion de révolution que je veux déjà commencer par préciser. L'humanité n'a pas connu tant de révolutions globales que cela, du moins pas de celles que je vais définir ici. Le type de révolution dont je parle est du genre à changer le visage du monde, de celles qui bouleversent les équilibres économiques, culturels, sociaux, etc. Essayons d'en lister les plus importantes pour bien mesurer de quoi nous parlons. La roue, l'écriture, la charrue, la poudre à canon, le papier, la boussole. Alors prenons un exemple parmi la longue liste quand même des grandes révolutions de l'humanité, l'imprimerie. Avant l'imprimerie, le savoir est détenu par quelques-uns, ce qui favorisait une forme d'obscurantisme favorable aux sociétés très fortement hiérarchisées. Avec l'invention de l'imprimerie de Gutenberg, nous passons de l'obscurantisme au siècle des Lumières. Eh bien, avec cela, toute notre société actuelle est née, une société de commerçants, d'artisans, d'intellectuels, et qui est directement enfant de cette première révolution technique et technologique. Eh bien, le 21e siècle a connu une révolution de ce type, la numérisation des échanges grâce à Internet. Quels sont les points communs entre toutes ces révolutions? Eh bien, chacune, à sa façon, par ses conséquences, ont raccourci les distances entre les hommes, accéléré le temps, et ce faisant, ont transformé nos sociétés. Chaque révolution a engendré de nouvelles révolutions qui ont eu les mêmes effets. La révolution numérique n'échappe pas à la règle, au contraire, elle la glorifie. Avec Internet, les distances n'existent plus. Le temps est raccourci à l'extrême. Nous pouvons, en visio, travailler avec un Américain, par exemple. Plus besoin de voyager, par écran interposé, nous nous trouvons à côté de personnes qui pourtant sont à des milliers de kilomètres de nous. L'économie est bouleversée, un nouvel Eldorado est créé, terrain de jeu des startups qui, en grandissant, deviennent ce que l'on nomme aujourd'hui les GAFA. Ce qu'il y a de nouveau avec la révolution numérique, c'est justement le temps. Quand la roue a été inventée, les effets de cette révolution se sont étalés sur des milliers d'années. Le monde a changé, mais a eu le temps de changer. Quand l'imprimerie a été inventée, la révolution s'est déroulée sur plusieurs centaines d'années pour permettre à la France, par exemple, de passer d'une monarchie à une révolution, puis à des républiques qui ont accompagné l'essor d'une nouvelle classe bourgeoise. Avec la révolution numérique, les bouleversements sociétaux et économiques se sont étalés sur 20 ans. Nous n'avons pas eu le temps d'encaisser les changements qu'une nouvelle révolution se profile. Eh bien, un mariage du numérique, de la data et du monde virtuel, je vous présente le métaverse. Alors, de quoi parle-t-on? Nous parlons d'un Internet à réalité augmentée, voire bien sûr à réalité virtuelle. Nous parlons de la construction d'un monde parallèle, le plus réaliste possible, un monde hyper connecté où notre hyperconnectivité est justement le pont qui relie notre réalité à cet univers numérique parallèle. Alors, quelques chiffres. Facebook change de nom pour adopter la marque Metaverse. Ce n'est pas que du marketing. Facebook va investir, tenez-vous bien, 100 milliards de dollars, soit pratiquement la moitié du budget de la France, dans les prochaines années, et a déjà mis sur la table 10 milliards de dollars d'investissement pour l'année 2022. Deuxième exemple, mais ce ne sont que des exemples, hein. Peter Jackson, réalisateur du Seigneur des Anneaux, vient de vendre son studio spécialisé dans les effets spéciaux. À qui ? À une société qui veut investir massivement dans le métaverse. Le prix, 1,6 milliard de dollars. Nous sommes dans des sommes investies folles. Pourquoi ? Bah parce que selon les spécialistes, le métaverse est le futur du net, le futur de nos consoles, le futur de notre bureau de travail. De quoi parle-t-on encore ? Bah d'un monde parallèle réunissant nos loisirs, les réseaux sociaux, notre job, une partie de nos relations sociales, un Internet en 3D habillé visuellement. En fait, c'est un Matrix grandeur nature. Si vous vous plaignez de vos enfants qui passent leur temps sur leur téléphone, comme mes parents se plaignaient de moi parce que je passais trop de temps devant le Club Dorothée, attendez le métaverse. Il sera possible de ne pas bouger de son lit durant la journée tout en ayant fait du sport, voyagé aux îles Seychelles, participé à des réunions de travail et sortir pour un rendez-vous galant. Le métaverse, ça n'est rien d'autre que ce que l'on a nommé, fut un temps, au début d'Internet, Second Life. Le métaverse, c'est l'évolution ultime, une vie virtuelle rendue possible par le très haut débit des données additionnées aux techniques et technologies immersives, telles que les casques de réalité virtuelle. Alors, quels sont les enjeux de cette révolution ? Économique. La prochaine puissance mondiale sera virtuelle. Si vous voulez devenir millionnaire ou milliardaire en Bitcoin, trouvez-vous un business model basé sur le métaverse. Si vous n'y avez pas encore réfléchi, bah, il est probablement déjà trop tard. Juridiquement, qui contrôle un monde virtuel ? Qui va y créer les lois ? Comment ? Eh bien, comme sur Internet, pardon. Principalement, les firmes qui l'ont créé et y travaillent. Bah, quid des États ? Quid de notre petite France ? Ne nous trompons pas. Nous allons vers une nouvelle entaille faite au pouvoir des États, car qu'est-ce qu'un État, sinon qu'un territoire sur lequel une entité exerce une souveraineté juridique ? Avec le métaverse, c'est un nouveau territoire, comme Internet. Ce sont des territoires qui seront investis par d'autres que nos vieux États. Mieux ou pire, sur ce territoire ou sur ces territoires, les nouvelles monnaies, comme le Bitcoin, seront le nouveau dollar. Enjeu de liberté ensuite. Quid de nos libertés dans un monde dans lequel nous allons transmettre toutes nos données personnelles et qui sera en grande partie contrôlé par des logiciels, que dis-je, par des intelligences artificielles, celles évidemment des grandes firmes. On mesure aujourd'hui l'impact des réseaux sociaux et des IA sur nos élections. On mesure mal encore leur impact sur la façon dont nos opinions se forment, bien que ce soit évidemment très étudié. Qu'en sera-t-il lorsque Internet sera un monde parallèle à celui dans lequel nous respirons ? Bien, derrière nos libertés, ce sont des enjeux politiques, sociaux, sociétaux, je l'ai déjà dit, qui se cachent. Alors, faut-il en avoir peur ? Bon, c'est un changement. La peur n'évitera pas ce changement. Il y aura des bouleversements extrêmement positifs. Il y aura des opportunités, notamment économiques nouvelles. Mais il y aura aussi des débordements non contrôlés. Alors, j'ai essayé de résumer un petit peu ce que c'était justement le métaverse en une seule problématique. Le métaverse, c'est Internet en tenue de soirée. Dès lors, on peut considérer que les problématiques que l'on connaît déjà de l'Internet seront en réalité augmentées avec le métaverse. Par conséquent, bah, il importe de s'en informer, de réfléchir par soi-même et de tout faire pour que si nous transposons une partie de notre réalité dans ce monde virtuel, nous n'y perdions pas pour autant nos âmes.
Je n'ai qu'un mot, Luc, vertigineux.
En réalité, il y a deux façons de voir les choses, hein. Soit, comme tu viens de le dire, vertigineux, parce que effectivement, c'est un monde qui peut paraître vertigineux. On aura un avatar et on aura une vie sociale dans ce monde-là, très probablement. Mais il y a une autre façon de se dire, mais en fait, c'est Internet. Ça n'est rien d'autre qu'Internet, sauf que c'est un Internet en 3D.
Tout à fait, mais vertigineux dans tous les sens du terme. C'est-à-dire vertigineux, pour moi, ça peut être positif et négatif, les deux en fait. Absolument. Parce que forcément, il y aura du bon et du moins bon, ça on en est déjà conscient. Et moi, qui suis déjà assez geek et dans le système, je me rends compte un peu de tout ce qui va nous arriver, quoi. Donc, vertigineux.
Alors, d'une certaine manière, Internet n'est que le reflet de ce que nous sommes, que le reflet de notre société. Donc, les travers que nous avons dans nos sociétés, dans la vie réelle, d'une certaine manière, on les retrouve sur Internet. Il y a autant d'arnaqueurs dans la vie réelle que sur Internet. Il y a autant de gens qui essaient de profiter d'autres dans la vie réelle que sur Internet. On n'est jamais que sur une transposition. Ce qui change, et c'est ce que j'ai un tout petit peu dit dans cette intervention, c'est que nos vieux États, en fait, perdent de leur puissance en réalité, parce qu'on est sur des mondes dans lesquels ils n'ont pas, où ils ont de moins en moins d'emprise. Et ça, c'est quelque chose véritablement à surveiller. Non pas que je tienne absolument à ce que les États demeurent, parce que les États, c'est quand même ceux qui ont fait la guerre pendant 2000 ans, et c'est ceux qui n'arrivent pas à se mettre d'accord à la COP26 pour réduire le climat. Donc, il y a peut-être d'autres modèles possibles. Mais enfin, derrière nos États, il y a aussi qui nous sommes, il y a notre identité de Français ou d'Américain ou de Belge, etc., etc.
Tout à fait, Luc. Non, moi, la seule chose sur laquelle je tique un tout petit peu, et encore, il faudra voir comment ça se passe, c'est nos relations sociales humaines. Voilà, c'est tout. Réelles, je veux dire.
Oui,
ça
alors.
Ça me fait toujours un peu peur, quoi.
Oui, oui, alors ça peut faire peur, mais j'ai essayé de montrer que c'était un Internet en 3D. Donc, regardons ce qu'est Internet, voyons les effets positifs d'Internet. Et. Au final, bien sûr qu'il y a des débordements hein, sur Internet. Je pense notamment, par exemple, au harcèlement, où vous avez des enfants aujourd'hui qui sortis de l'école, en fait, se retrouvent dans le harcèlement d'Internet. Donc, autrement dit, ils sont harcelés un peu partout. Et là où, lorsqu'on était harcelé à l'école, on pouvait au moins rentrer chez soi, être dans une zone de paix, ben, on l'a pu parce qu'on est hyper connecté. Donc, il y a ce problème-là. Donc, ça, c'est une déviance, en fait, dans les relations sociales. Mais Internet permet aussi à un petit enfant d'appeler sa mamie qui est au bout de la France et qui, sinon, n'aurait pas de contact. Donc, on a tous les effets positifs et négatifs dans Internet et on aura des effets extrêmement positifs dans le métaverse. Mais il y aura véritablement des choses à vérifier. C'est en fait, je répète cette phrase-là, je pense qu'elle est importante. Les problématiques que nous avons avec Internet, donc celles qui tiennent aux questions de liberté, celles qui tiennent aux questions de vie privée, on va les retrouver multipliées par 100 dans le métavers, parce que l'hyperconnectivité, en fait, est une atteinte très forte à nos libertés et à notre vie privée. Et donc, cet aspect-là, il est important. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une réunion, là, après cette émission radio, j'ai une réunion par Internet, via Zoom. Très bien. Mais en fait, je montre le mur qui est derrière moi, sur Zoom. Si j'ai même envie, je masque ça. Il y a un petit logiciel qui permet d'avoir un fond quelconque. Bon. Autrement dit, on voit mon visage et c'est comme si nous étions autour de la table. Sauf qu'avec le métavers, comme tout est connecté, il y aura probablement des caméras un peu partout, des capacités d'enregistrement un peu partout, et vous pourrez plus masquer votre enfant qui pleure à côté de vous, votre bureau mal rangé, votre tenue peut-être pas adéquate dans une réunion Zoom. Et encore, là, je suis en train de parler d'une situation où je travaille, où j'ai conscience que je travaille. Mais le problème, c'est que tous ces objets connectés, ils travaillent pendant que vous dormez, pendant que vous ne vous imaginez pas qu'ils sont en train de vous écouter. Donc, cette atteinte forte à nos libertés et à notre vie privée, il va falloir la cadrer. Et alors, la question, c'est qui va la cadrer ? Les États sont un peu en panne, parce que les États, il faut qu'ils se réunissent, qu'ils créent un accord international qui permette de... Alors, bien sûr que l'Union européenne, que les États-Unis ont essayé de réglementer Internet, et ils parviennent encore aujourd'hui, mais avec beaucoup de retardement. C'est passé pratiquement 15 ans ou 20 ans avant qu'on ait des législations un petit peu intéressantes et importantes sur le net.
Tout à fait. Moi, je vais finir sur, en tout cas, avant de poser, que je te pose, pardon, les questions de nos auditeurs, je vais finir sur un point super positif, c'est que grâce à Internet, tu vois, on arrive à faire cette émission en direct alors que tu es à Lille et moi sur l'île de Beauté. C'est pas beau, ça?
Absolument.
Alors, première question de Hugo. Alors, je te précise, Hugo a 13 ans. Hein. Un métavers est-il un monde virtuel fictif? Alors, je sais que tu as déjà un peu répondu, mais qu'est-ce que tu peux répondre à Hugo?
Oui, alors ça va être complètement ça. Est-ce que vous connaissez le film Wall-E?
Ah oui, magnifique.
Bon, donc vous voyez dans Wall-E, en fait, le métavers, c'est-à-dire un monde dans lequel, en fait, on a un casque, on a une visière, on a des lunettes, des écouteurs, et puis l'ensemble des objets autour de nous sont connectés à ce monde. Donc, en réalité, on va rentrer dans un monde dans lequel on va créer un avatar. On aura une deuxième vie dans ce monde-là. Alors, c'est pas que du virtuel, hein. Enfin, c'est du virtuel réel, parce que lorsque je vous parle de Bitcoin, je vous parle quand même de richesse, d'argent, et qui est transposable, en fait, en argent réel. Donc, il y aura des choses qui seront complètement virtuelles, et puis des choses qui seront transposables dans notre vie réelle. Donc, il y aura un pont, et ce pont, il se fera par de la technologie, par de la numérisation. Vous savez, l'argent est déjà virtuel. Donc, c'est pas étonnant d'avoir un monde dans lequel on aura des monnaies, on aura le Bitcoin aujourd'hui. Et encore un épiphénomène, il est important hein, bien sûr, mais ça reste encore un épiphénomène. Les monnaies nationales et internationales, en tout cas pour l'euro, ont encore le lead d'une certaine manière. Mais avec le métavers, il est possible que ce rapport de force s'équilibre et que de plus en plus de monnaies virtuelles prennent le pas sur nos monnaies réelles. Ça c'est une réalité. De même que les richesses, il est possible que vous soyez milliardaire sur le métavers et pas du tout dans la vie réelle.
D'accord. Alors Valérie te demande quel est le devenir des emplois dans ce nouveau monde virtuel.
Ah bah c'est comme toujours dans l'économie, c'est-à-dire qu'à chaque révolution économique, industrielle, on a une destruction d'emplois d'un côté et puis on a une création de l'autre. Mais l'histoire de l'économie nous montre qu'il y a beaucoup plus de création que de destruction. Donc à la question que vont devenir les emplois, bah, certains emplois vont disparaître. Il y a des pans entiers de notre économie actuelle qui risquent de souffrir en fait de cette virtualité de notre monde. Pourquoi ? Bah parce qu'on va mettre notre argent ailleurs, tout simplement. Donc il y a un vaste communicant qui va se faire et donc à un moment donné des choix qui se feront dans notre vie réelle. On achètera peut-être un peu moins de choses réelles et un peu plus de choses virtuelles. Mais des industries, des sociétés vont se créer, vont naître, de nouveaux métiers vont être créés. Je rappelle que les rapports sur les métiers montrent que le métier que un jeune de 20 ans fera dans 10 ans n'existe peut-être pas encore. Ça, c'est la réalité de notre monde. C'est pour ça que j'ai exprimé le fait qu'on avait eu une révolution numérique et qu'on n'avait pas encore encaissé les changements de cette révolution. On n'est pas encore adapté, on n'est pas habitué en réalité encore à Internet, qu'on a une deuxième révolution, un deuxième stade de cette révolution, parce que ce n'est pas une deuxième révolution, on est dans une continuité de la révolution, mais c'est un deuxième stade important et on n'a pas encore encaissé le premier stade. Donc, ça crée quoi ? Ça crée des tas d'opportunités, mais ça crée aussi, comme dans tout changement, beaucoup de stress et beaucoup de difficultés à s'habituer, en fait.
D'accord. Alors, Loïc te pose comme question, quid du développement des objets connectés ?
Ah, bah, ça va être exponentiel. Je pense
j'imagine.
À ce terme-là. Globalement, on aura de plus en plus d'objets connectés et on aura de moins en moins de contrôle sur leur connectivité, tout simplement. Pourquoi ? Parce que dans Internet et dans le métavers, la richesse, ce sont les données qu'on récolte de vous. Ça, il faut bien en avoir conscience. Ce qui fait la richesse des GAFA, de Facebook et autres, ce sont les données qu'on a sur vous. Et donc, plus les objets sont connectés, plus c'est immersif chez vous, plus on tire d'informations sur vous et donc sur le consommateur en fait que vous êtes. Et c'est ça qui rend riche les GAFA et les gens qui travaillent sur Internet.
Tout à fait. Alors, Pierre-Jean te demande, la révolution de l'espace numérique fait peur, actuellement en tout cas. Vers quoi va-t-on exactement d'ici les 20 prochaines années ?
Alors, bien malin celui qui peut répondre à cette question, on peut s'appuyer quand même sur la littérature fantastique, parce qu'au final, le mot métaverse vient quand même justement de cette littérature. Les écrivains qui travaillent sur la fantasy et le fantastique ont parfois deviné ce qu'allait devenir notre monde. Mais ils l'ont deviné que partiellement, en réalité, en y mettant bien d'autres choses, évidemment, parce qu'un roman n'est pas fait pour être divinatoire, uniquement divinatoire. Enfin, on trouve quelques éléments quand même dans lesquels on peut se dire, oui, ah, quand même, ils ont inventé notre monde. Donc, on peut utiliser cette littérature pour imaginer ce que l'on deviendra. Par contre, est-ce qu'on peut rationnellement se dire dans 20 ans on sera ça ? J'en sais rien. En l'an 2000, qui pensait qu'on en serait 20 ans plus tard à un monde dans lequel on a une monnaie qui concurrence le dollar, on passe plus de temps sur notre ordinateur que devant notre télé, on a une montre connectée qui nous permet de faire du sport et de maigrir. Enfin, toutes ces avancées-là, on ne pouvait pas les imaginer en 2000, quoi. Voire même, on pouvait se tromper. Moi, je me souviens très bien qu'en 2002 ou 2003, je faisais un cours sur justement la notion de liberté, la vie privée, etc. Et j'annonçais à mes étudiants, et je m'étais trompé, qu'on allait avoir des frigos connectés. Parce qu'ils étaient en train de travailler à l'époque sur cette question-là, avec des puces à l'intérieur de chacun de nos produits qui permettraient en fait au frigo de savoir exactement ce que l'on consomme et de dire au magasin du coin comment nous faire une bonne publicité pour qu'on aille acheter notre yaourt. Bon, bah, je me suis trompé. En fait, je me suis trompé, non, parce que ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est quoi ? C'est Amazon, c'est toutes ces structures-là, mais disons que c'est pas un frigo. Donc, dans 20 ans, quel visage aura notre monde ? J'en sais rien précisément. Enfin, globalement, on peut imaginer qu'on aura à la fois une vie réelle et une vie virtuelle qui sera de plus en plus importante.
D'accord. Et dernière question, Luc Delory. La réalité virtuelle peut-elle nous faire oublier la réalité terrestre à la longue?
Ben c'est Wally. Hein.
C'est ça.
encore une fois, c'est intéressant d'aller vers cette littérature ou ces films qui ont anticipé. Ben, disons que c'est un trait à surveiller. Après, non, je pense pas quand même, parce qu'on est des humains, que notre corps a besoin de bouger, qu'on a besoin quand même d'interaction, qu'on a besoin. Il y a l'intelligence sensorielle qui est en nous aussi, et on a besoin quand même de se toucher, de se réunir, de se taper sur l'épaule, de se faire une bise. On a quand même besoin de toutes ces choses-là. Bon, maintenant, dans 2000 ans ou 3000 ans, que sera l'humanité? Je n'en sais rien.
Tout à fait, oui, on peut pas de toute façon le savoir, mais belle perspective en fait, il va y avoir des bonnes choses, des moins bonnes choses, on verra bien de toute façon, on va vers ça, on tend vers ça,
ouais.
On est bien parti.
Absolument, mais comme je l'ai dit, il importe aujourd'hui d'y réfléchir et quand même de prendre le temps de se poser pour se dire, ok, qu'est-ce que je veux pour moi et pour mes enfants.
Tout à fait. Luc, je voulais quand même revenir sur deux de tes chroniques précédentes, parce que déjà sur la dernière, tu avais prédit quelque chose qui s'est produit, donc ça quand même je voudrais y revenir, sur celle d'avant aussi, il y a eu des avancées on va dire, vas-y je te laisse expliquer.
Alors d'abord sur le rapport SIAZ, donc l'avancée c'est que quand même les évêques de France se sont mobilisés et il semblerait qu'ils concèdent la vente de biens de l'Église pour pouvoir dédommager les victimes, ce qui était la moindre des choses. Je l'avais exposé dans ma chronique et en responsabilité, ceux qui évidemment ne sont pas coupables, parce qu'il ne faut pas tout mélanger non plus. Hein. L'Église, c'est un système. Il y a dans l'Église des gens qui sont évidemment des gens très bien, qui sont des hommes de foi. Il n'y a aucunement question de remettre en cause ni ça, ni de faire une critique de la chrétienté. Chacun a le droit évidemment à sa propre foi, et donc il y a des très très majoritairement de très bonnes personnes dans l'Église, donc qui font le taf et qui à un moment donné se sont dit ok, on est d'une certaine manière responsable des monstres que l'on a créés, et donc on va quand même dédommager, et s'il faut vendre les biens de l'Église, eh bien on le fera. Donc ça c'est quand même une initiative qu'il faut quand même souligner. La deuxième chose, mais sujet très différent, c'est sur le nucléaire. Effectivement, je m'étais un peu avancé en disant, vous allez voir que dans un avenir proche, avant les élections ou après les élections, on aura l'annonce de la création ou l'investissement dans de nouvelles centrales EPR, et eh bien Emmanuel Macron l'a annoncé lors de sa dernière allocution télévisée, puisqu'on aura normalement 6 en centrales nucléaires à peu près certaines de financer. Donc, centrale nouvelle génération. Et donc, on va vers ça. Hein. C'est la suite logique du rapport, en réalité.
C'est ça, c'était la dernière option, la sixième, si je ne m'abuse. Et pour nos auditeurs...
Je vous reviens d'ailleurs là-dessus, parce que c'est quand même intéressant d'entendre ça. En fait, dans ce rapport, on a 6 options. Mais en réalité, il faut regarder que la sixième, parce que les 5 autres ne sont destinées qu'à expliquer la sixième.
Oui, ça, on avait bien compris. Mais justement, je voulais juste dire que pour les auditeurs qui auraient raté ta dernière intervention, ta dernière chronique, elle est de toute façon en podcast sur le site internet Arengo. Ça, c'était la petite parenthèse. Mais en tout cas, bravo pour ta prémonition, puisqu'elle s'est avérée tout à fait réelle.
Oui, qui arrivait plus vite que je ne pensais. Je pensais que ça allait arriver après les élections, mais bon, ça a été fait avant.
Ils l'ont fait avant. Bon, parfait, Luc. Qu'ajouter? Prochaine chronique dans 15 jours?
Prochaine chronique dans 15 jours pour un sujet que l'on ne connaît pas encore, mais que je te transmettrai, comme toujours, quelques jours avant.
D'accord, donc je l'annoncerai la semaine prochaine. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez toujours poser vos questions à Luc par le biais du site internet arengo, je vais le répéter, arengo.com. Vous avez un accès direct avec Luc qui répond à vos questions tous les 15 jours sur l'émission ou les émissions précédentes d'ailleurs. Hein. On peut toujours revenir en arrière, il n'y a pas de souci.
Absolument. En tout cas, ce sera avec plaisir.
Ok, Luc, je te remercie en tout cas et je te donne rendez-vous. Donc, dans 15 jours, nous serons, si je ne m'abuse, mais je vérifie tout de suite, le 30 novembre à 13h pour cette nouvelle chronique.
Eh bien, au 30 novembre. Au revoir à tous.
Au revoir, Luc.
Je cherche l'inspiration électronique, je suis un créateur, antistatique et sur ma guitare en plastique. Les vibrations sont techno-tectoniques. Alors je m'allume une ultra light à l'ultraviolet. Ça me rend ultra nerveux. Ça me rend ultra mauvais. Faut que je mette mon spleen dans la machine. Faut que je m'assouplisse à la soupline. Mais le monde est rond et ne se ressemble pas. Souviens-toi de demain, il ne aura qu'une fois. C'est pas pour hier que demain s'oubliera. J'ai la mémoire courte, mais le futur ne s'oublie pas. Salon. J'ai une tendancieuse nostalgie du futur. Ça me ronge, ce songe, et je plonge dans ce vieux murmure. Les fusées muses me reconquêtent et les mots fusent dans ma tête. S'en ira avec toutes mes rêveries, les nuages et mon lit. Mais le monde est rond et ne se ressemble pas. Souviens-toi de demain, il ne roulera qu'une fois. C'est pas pour rien que demain s'oubliera. J'ai la mémoire courte, le futur ne s'oublie pas. Tu es nue, claire, lumineuse comme l'éclair. Nue comme l'air, nucléaire.
Écoutez Radio Aramigo.